Chapitre 52. Pierre Soulages. Le noir est une couleur. Le docteur était ému en voyant arriver Camille et sa fille. Ce serait la dernière rencontre, car Van Horst s'en allait. Ses grandes compétences de médecin, associées à ses méthodes de guérison par l'hypnose, avaient aiguisé l'intérêt d'importantes institutions à travers le monde, et c'était décidé. Il partait. Il ne voulait pas quitter la France sans dire adieu à l'enfant. Et surtout, il ne voulait pas s'éclipser sans expliquer ce que l'avenir lui réservait. Car il craignait que les conclusions de son rapport sur les yeux de Mona n'aient été trop sibyllines. Il récapitula. Sa thérapie lui avait permis de découvrir que la petite fille avait été très attachée à sa grand-mère Colette. Mona avait non seulement appris à marcher avec elle, mais elle avait ri, joué, partagé des centaines de choses imperceptibles qu'il avait construites dans ses toutes premières années. Aussi Mona avait-elle vécu un choc psychotraumatique violent avec la disparition précoce et mystérieuse de son aïeul. Et puisqu'un tabou familial entoura par la suite l'euthanasie de Colette, le refoulement fut profond. Or, lors de l'ultime échange entre la grand-mère et l'enfant, la première avait offert à la seconde un pendentif. Ce pendentif avait d'abord joué pendant des décennies un rôle de fétiche scellant l'union de Colette et d'Henri. Il changeait de main, ou plutôt de cou, et une fois accroché à celui de Mona, il concentra toute la puissance solaire de cet aïeul parti trop vite. « Oublie le négatif, ma chérie. Garde sans cesse la lumière en toi », avait-elle dit avant de disparaître. L'inconscient de la petite fille plaça cette lumière dans cet objet de rien. Un simple coquillage ramassé par deux amoureux sur une plage. Et puis à 10 ans, le traumatisme rejaillit. Un jour, tandis qu'elle faisait ses devoirs, Mona fut gênée par son cirique gommier. Elle l'ôta sans méfiance. La nuit s'abattit d'un coup sur ses yeux, en dehors de toute cause explicable. On chercha un diagnostic, mais il n'y avait aucune anomalie mécanique. Alors quoi? C'était le cerveau qui hurlait sa douleur enfouie. Une deuxième fois, tandis qu'elle était à la brocante avec son père, le pendentif cassa, et à nouveau ce fut la nuit. Et puis une troisième fois, pendant que Mona se tenait devant une œuvre de Hammershøi, elle retira son collier par un réflexe. Le résultat fut le même. D'où cette déduction du médecin. C'était là une pathologie qui ne tenait qu'à un fil.
« Mais donc, » demanda l'enfant, « est-ce que ça veut dire que si je retire mon pendentif maintenant, je vais encore être aveugle ?»«
Non, non. Enfin, disons que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, » répondit Van Horst, embarrassé par la question. « Mais il est vrai qu'il vaut mieux ne... »
« Ma chérie, tu ne dois surtout pas le retirer !»
l'interrompit Camille, dont la face inquiète avait pris une coloration rouge.
« Dans le doute, il vaut mieux le garder à ton cou, comme un objet qui fait partie de toi. L'inconscient est extraordinairement puissant, » souligna Van Horst.
« Je ferai bien attention, »
répondit Mona. Il y eut un long moment de suspension. « Au fait, Mona... « N'oublie pas non plus que tu as une vue exceptionnelle, comme personne, ou presque n'en a. Tu dois t'en servir. Tu dois tout regarder et tout enregistrer de ce que tu vois. »
En serrant la main du médecin, Mona réfléchit à ce que le docteur venait de lui dire. Son visage s'illumina, car elle comprit pourquoi son grand-père l'avait emmené au musée. C'était le sens de toutes ses visites depuis le début, qu'elle s'archive par le biais des beautés qu'il avait choisies pour elle. Qu'elle archive mentalement ses trésors et qu'ils demeurent à jamais son réservoir de couleurs et de joie si la cécité devait la rattraper un jour. Une année était passée depuis la séance inaugurale au Louvre. Mona avait mûri dans cet intervalle, à tel point qu'elle n'aurait pas reconnu la fillette qu'Henri tenait par la main devant la fresque de Botticelli. Ces deux Mona, si proches et si lointaines, et dont la réconciliation ne pourrait intervenir que bien plus tard, une fois l'adolescence traversée, auraient en revanche pu s'entendre sur un point fondamental. Au centre de leur cœur se dressait ce grand-père sémaphore, ce monument, ce silex adoré. Il était là, devant Beaubourg, d'une élégance fantastique, et sur son visage balafré rôdait une phrase douloureuse. Il la fit tonner comme une sentence sans appel. « C'est la dernière fois, Mona. » L'enfant, au fond d'elle-même, le savait déjà et ne sut que rétorquer. Et pourtant, il fallait réagir, non pour dissiper une gêne qui n'existait pas, mais parce qu'il y avait, elle en était sûre, une attitude qu'il convenait d'adopter. Il marchait, erratique, dans Beaubourg, en se tenant par la main. Ils tombèrent finalement sur un tableau de Pierre Soulages, du 22 avril 2002, date de création qui servait de titre à l'œuvre. Alors Mona sentit poindre en elle une réponse satisfaisante à l'annonce écrasante de son grand-père. « Puisque c'est la dernière fois, Dadé, c'est à mon tour, » lança-t-elle. C'était un tableau abstrait, au ton sourd, presque carré de 2 mètres de haut sur 2,20 mètres de large. Il était essentiellement composé de 5 bandes foncées disposées à l'horizontale de manière régulière sur un grand et fin panneau homogène en médium, c'est-à-dire en fibre de bois. Les bandes étaient séparées par 4 traits au pastel clair. Le panneau de médium se trouvait lui-même superposé sur un premier support, comme s'il s'agissait d'un tableau collé sur un tableau, et le recouvrait dans la totalité sur la hauteur, mais non sur la largeur. 2 marges verticales mesurant 10 cm demeuraient ainsi visibles. Elles étaient elles-mêmes bordées d'un contour d'acrylique noir de chacun des côtés, mais dans l'interstice qui les séparait du panneau carré en fibre, il y avait à droite comme à gauche un jeu entre des zones blanches et d'autres qui étaient sombres. On devinait en somme l'amorce de forme raide ou curviligne, obturée par la superposition du support composé des 5 bandes foncées. Celle-ci n'était pas du tout monochrome. On y sentait les tonalités brunes et changeantes du bois, ses veines et ses aspérités, et absorbait en elle à l'aide d'un chiffon, un enduit de peinture presque transparente y faisait sourdre des bouffées de marron et des vapeurs de gris aux limites du rouillé. Ce procédé y faisait naître des reflets et des lumières. Henri observa l'œuvre. Mona aurait pu disparaître dans son dos, s'évanouir dans le musée ou s'assoupir, il n'en aurait rien su puisqu'il s'était mis dans la peau du contemplateur et lui avait laissé le rôle de la sentinelle qui veille et qui transmet. Quant à la petite fille, elle fixa dans sa mémoire l'image bouleversante de son modèle absolu, les cheveux plaqués en arrière, le port plus altier que jamais, englouti par les masses nébuleuses du tableau. Elle repensa au mythe d'Orphée et d'Eurydice, et se demanda si, en se retournant vers elle, son grand-père ne la propulserait pas dans les ténèbres. Et sans qu'elle sache vraiment pourquoi, elle songea qu'elle aussi voudrait un jour aimer quelqu'un et en être aimée comme Henri et Colette s'étaient aimés. 1 heure passa, 63 minutes exactement. Le vieil homme pivota enfin sur lui-même. L'enfant était là, minuscule et gigantesque en même temps. Elle déglutit, soupira, commença. « En fait, » affirma-t-elle d'un ton docte et posé, « ce tableau, il faut le regarder comme si on regardait un tableau du passé avec des tas et des tas de figures. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'œuvre de Soulages est pleine de détails. Mais ces détails, ce sont les détails de la matière, les détails des plaques du bois et ceux de la lumière qui flotte à la surface. » Et il y a aussi ces 4 lignes blanches faites avec du pastel. On dirait 4 raies de lumière. C'est ça qu'il faut voir. Mais attention, je t'écoute, on doit voir ce qu'on veut aussi, parce qu'on doit laisser chacun libre. Tu sais, il y a quelqu'un qui avait inventé un test il y a longtemps, et dans ce test, on demandait à des gens de réagir devant des taches d'encre. Les taches, elles peuvent ressembler à un cœur, à un papillon, à un dinosaure, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête du patient.
Et donc,
dans le tableau de Soulages, il y a plein d'images qui sont en train de se former. Mais c'est dans l'esprit de chacun, C'est ça qui compte. L'explication dans laquelle Mona s'était précipitée était d'une fertilité salutaire. Henri lui apprit que Pierre Soulages était né en 1919 dans un milieu modeste du sud de la France, qu'il vénérait l'art ancien et même préhistorique, ainsi que l'architecture romane, et qu'enfant, il faisait des paysages de neige. Soulages s'était imposé dans l'art abstrait après-guerre, aux côtés de Hans Hartung en Europe, et en parallèle de créateurs américains qui, pour certains, développaient une esthétique cousine de la sienne, Franz Klein, Robert Motherwell ou encore Mark Rothko. Cette esthétique, c'était celle d'un vocabulaire fait de puissantes oppositions entre le clair et l'obscur, mais avec des matériaux simples, voire pauvres. Le brun du brou de noix appliqué avec des brosses de peintre en bâtiment, par exemple, ou encore du goudron sur verre. Cette esthétique, c'était aussi celle qui aboutissait à sa grande innovation de 1979. Soulages expérimenta alors ses outres noirs, c'est-à-dire des noirs doués d'une grande qualité luminescente, dont la texture, une fois dynamiquement modelée, démultiplie les nuances et les scintillements. Des noirs qui n'en sont pas. « Dis-moi les formes que tu vois, Mona, » lança Henri avec un ton de jeune homme curieux.
« Regarde bien, Dadé. Dans la première bande, en haut, par exemple, je vois un enterrement ornant de Courbet, avec le grand cortège des villageois qui pleurent. Est-ce que tu te rappelles ? Je vois un deuil. »
« Et que vois-tu dans la deuxième bande, au-dessous ? » ?»«
L'arrière-boutique de papa. » Et le moment où j'ai compris que j'avais un chiot pour mon anniversaire. Je vois la joie.
Et dans la troisième?
Je vois les trois fois où j'ai grimpé sur tes épaules. Devant l'esclave mourant de Michel-Ange, devant l'oiseau dans l'espace de Brancusi, et devant le musée d'Orsay pour poser sur la photo avec toi. Dans cette troisième bande, je vois en fait...
Elle chercha sans succès le terme adéquat.
« Tu vois la croissance, Mona. Et dans la quatrième ?»«
Je vois l'agitation quand tout le monde chahute dans la cour. Je vois la fois où j'ai pris un ballon dans la figure et la douleur ensuite. Je vois la violence. »«
Et dans la cinquième ?»«
Je vois des lettres. Je vois les lettres minuscules que j'avais réussi à déchiffrer chez le docteur Van Horst. J'avais réussi à lire de loin le serment. »
Elle avait oublié le nom de l'ancêtre grec de la médecine. « Le serment d'Hippocrate. »«
Oui, c'est ça, le serment d'Hippocrate. » Et là, le docteur m'a expliqué que j'ai une très bonne vue, une vue très précise malgré mes soucis. Dans cette cinquième bande, je vois la guérison.
Henri était concentré sur les bandes sombres du tableau et venait d'en apprendre beaucoup sur son compte. Car dans la manière que Mona avait de le présenter, en attribuant à chaque partie une symbolique, deuil, joie, croissance, violence et guérison, elle en avait discerné le potentiel allégorique, moral et sacré.
« Et regarde les côtés maintenant, » reprit l'enfant. « Je suis sûr que tu t'en aperçois. L'artiste a collé son panneau de bois avec ses cinq bandes horizontales sur un premier support, qui est donc en dessous. Mais comme le panneau qui recouvre le support du dessous est un peu moins large, il laisse une marge à droite et une marge à gauche. Maintenant, regarde ces deux marges. Que vois-tu ? Que le support du dessous a été peint avec un fond blanc et des hachures noires. Et ensuite, l'artiste lui a superposé le panneau sur lequel il a fait ses bandes.
Et qu'est-ce que ça signifie ?
Avant de signifier quelque chose, Dadé, il faut quand même admirer sa beauté. J'aime les deux bandes verticales, les jeux de blanc très purs, les noirs vraiment profonds. Ils contrastent avec les bandes obscures du panneau du dessus, où les nuances d'obscurité se fondent les unes dans les autres, au lieu d'être des teintes tranchées.
Elle était fière de sa façon de s'exprimer, eut même le sentiment d'être une adulte.
Mais bon, je crois qu'en plus d'être très beau, ça signifie quelque chose.
Quoi, Mona ?
Qu'il y a toujours plus à regarder que ce qu'on pourrait croire. Ça signifie qu'il faut savoir tout regarder, et regarder partout. Sur les côtés en plus du centre, de haut en bas et de bas en haut, de gauche à droite et de droite à gauche. Mais surtout qu'il faut voir... Comment dire ?
Vas-y, Mona.
Eh ben, qu'il faut voir au-delà de ce qu'on voit. Parce que sous le panneau de bois, on comprend qu'il y a d'autres formes. Ces formes sont cachées, mais existent ailleurs. Soulage nous apprend ça.
Il nous apprend l'existence de ce qui échappe à nos yeux. Et donc, Mona, à ton avis, que répondrait Soulage à ceux qui disent « Le noir n'est pas une couleur ».
C'est bizarre de dire ça, puisque si on mélange toutes les couleurs, on obtient du noir, pardi.
Mona s'arrêta, puis reprit avec une intonation nouvelle. Elle paraissait légèrement hypnotisée. Son débit ralentit. Son regard s'enfonça dans la toile, comme si son esprit l'avait rejointe.
« Voilà, Dadé. C'est ça, notre leçon. Grâce à Pierre Soulage. Le noir est une couleur. C'est même une couleur à perte de vue. »